Il est l'heure, comme tous les jours, de retrouver le journal de la philo, présenté cette semaine par Anastasia Colosimo.
On n'est pas là pour philosopher, Carpentier.
Quand même. Incroyable.
Bonjour Anastasia.
Bonjour.
Bienvenue à ce micro, c'est vous qui allez remplacer Géraldine Mosna-Savoie cette semaine. Chers auditeurs, ne vous inquiétez pas, vous la retrouverez très vite. De quoi allez-vous nous parler aujourd'hui ?
Alors aujourd'hui, je vais vous parler d'un très bel événement qui a lieu demain. Nous entrons, vous le savez, aujourd'hui dans le mois d'octobre, n'est-ce pas ? C'est-à-dire ce mois si spécial qui, il y a 100 ans, a bouleversé l'histoire de la Russie, mais aussi l'histoire du monde. En fait, pour être tout à fait exact, et pour ne pas nous attirer tout de suite les foudres d'historiens avertis, la révolution bolchévique, dite révolution d'octobre, a eu lieu en novembre. Bon, pour rappel, le calendrier julien, en raison d'un mauvais calcul des années bissextiles, accuse d'un retard de 3 jours tous les 400 ans. En 1582, le pape Grégoire VIII décide donc de remplacer le calendrier julien par un nouveau calendrier, appelé depuis le calendrier grégorien, pour Grégoire VIII. Celui-ci est immédiatement adopté par les États se trouvant sous l'autorité de Rome, comme l'Italie, l'Espagne, la Pologne, le Portugal et bien sûr la France. Ce même calendrier grégorien n'est adopté par la Russie qu'en 1918, à la suite de la révolution d'octobre de 1917, selon le calendrier julien, qui a donc eu lieu, selon le calendrier grégorien, en novembre. Mais
je sens
que je vous perds un peu quand même.
Dites-nous.
Notons par ailleurs que l'Église orthodoxe russe, quant à elle, n'a jamais accepté ce calendrier imposé par le gouvernement athée. C'est pour cette raison que l'on parle du Noël russe, fêté le 6 janvier, 13 jours après notre Noël à nous. Bref, toute cette petite digression sert tout à fait mon propos, puisqu'elle est à l'image de la confusion qui règne encore aujourd'hui, en Russie et même en France, autour de cet événement historique. En Russie, osons le dire, la confusion est totale et tient à la difficulté à nommer l'ennemi. Pour l'État d'abord, qui concilie l'irréconciliable. D'un côté, la dépouille de Lénine, l'inventeur du bolchevisme, fait encore l'objet de pèlerinages quotidiens sur la place du Kremlin à Moscou. Et en même temps, il faut rendre peut-être la paternité de ce concept aux Russes, la famille impériale des Romanov, assassinée par les bolcheviks en 1918, a été canonisée en 2000. Pour les Russes eux-mêmes ensuite, puisqu'aucun travail de mémoire n'a été fait autour des crimes du communisme, comme cela a pu être le cas dans certains pays du pacte de Varsovie, en Pologne, dans les Pays-Baltes ou encore en Roumanie. Et d'ailleurs, le meilleur moyen de se saisir de la profondeur de ce problème est sans doute de se tourner vers cette histoire qui a agité les réseaux sociaux russes l'année dernière. Denis Karagodin, un jeune russe qui habite Tomsk, a décidé il y a quelques années de savoir qui avait condamné son arrière-grand-père à être fusillé dans les années de répression stalinienne. En menant son enquête, il a retrouvé dans les archives le nom des 3 employés, dont un s'appelait Nikolai Zirianov. Cette histoire a fait le tour des réseaux sociaux, jusqu'à ce que la petite fille de ce fameux Nikolai Zirianov, le bourreau, se manifeste en envoyant une lettre à Karagodin, lettre dans laquelle elle lui demande pardon pour les crimes de son arrière-grand-père paternel. Mais l'histoire ne s'arrête pas là. Dans cette même lettre, elle raconte que son arrière-grand-père maternel, lui, avait aussi été victime de la répression. Je la cite. « Ainsi il s'avère qu'il y a dans une même famille des victimes et des bourreaux. Mémoire impossible et contradictoire donc. » Alors on pourrait en rester là, mais cela ne serait pas rendre justice à la place immense qu'a occupée la Révolution française et la figure de Robespierre dans l'imaginaire des révolutionnaires bolcheviques. Cette obsession de la Russie pour la France s'est accompagnée d'une obsession de la France pour la Russie. Quand même, le Parti communiste français, fondé en 1920, a largement soutenu la Révolution d'octobre, mais pas seulement. Il a aussi glorifié Staline, qui était le héros de toute une génération d'intellectuels et écrivains français, au premier rang desquels Jean-Paul Sartre, Louis Aragon ou encore André Gide. Il faudrait aussi parler du télégramme des étudiants de l'école normale supérieure, envoyé au Parti communiste du RSS en 1953 à la mort de Staline, tant leur émoi fut grand quand ils ont appris la disparition du petit père des peuples, ou encore de Sciences Po, rebaptisé Institut Lénine en mai 68. Il faudra attendre la publication de l'archipel du Goulag d'Alexandre Solzhenitsyn en 1973 pour commencer à entendre des voix dissonantes et encore. Or, la question du devoir de mémoire n'est pas seulement l'affaire des historiens. Elle est aussi et surtout l'affaire des philosophes, l'affaire des intellectuels qui, en s'emparant d'un événement étranger, doivent mesurer la portée de leur discours, hier et aujourd'hui. C'est donc pour mettre un peu d'ordre dans tout ce désordre que le cinéma Max Linder, à Paris, propose le mardi 3 octobre, c'est-à-dire demain, une journée consacrée aux intellectuels français face à la révolution de 1917. Trois films sont proposés tout au long de la journée. Il s'agit du Premier Maître d'Andrei Konchalovsky, de Brille, mon étoile brille d'Alexandre Mita et de Docteur Jivago de David Lean. À 18h, une conférence qui promet d'être passionnante rassemblera Macha Merrill, Jean-Pierre Chevènement, Marc Ferraud, Laurent Geoffrin et Jérôme Clément pour parler du tsarisme, de la Commune, de la Révolution de 1917, du point de vue des Russes et des Français. Rencontre qui pourrait servir à dissiper ce que François Furet appelle le charme universel d'octobre.